Bienvenue dans ce face-à-face d'idées. Alors, aujourd'hui, on va replonger en juillet 1932. Le parti nazi vient de remporter une victoire électorale vraiment écrasante en Allemagne.
Avec 230 sièges au Reichstag. Oui, c'est massif.
C'est énorme. Mais paradoxalement, ce raz-de-marée ne leur donne pas tout de suite le pouvoir. Dans un pays qui est, tu sais, ravagé par la Grande Dépression et ses 6 millions de chômeurs, on doit vraiment se poser une question centrale. Est-ce que c'est la mécanique implacable de ce scrutin du 31 juillet qui a condamné la République de Weimar de l'intérieur, ou bien est-ce que ce sont les intrigues politiques des élites qui ont suivi ? Moi, je suis convaincu que cette élection a créé une paralysie institutionnelle fatale. La démocratie, elle s'est bloquée toute seule.
Eh bien, je ne suis pas du tout de cet avis. Je suis même convaincue du contraire. L'effondrement, ce n'est pas à cause des bulletins de vote de l'été 32. C'est vraiment l'aveuglement d'une élite conservatrice qui a délibérément, tu vois, contourné les urnes pour confier les clés du pays à Adolf Hitler.
Regardons un instant la mécanique de cette élection. On a une participation extrême. 84,1%.
Ouais, c'est un record pour l'époque.
Très élevé, oui. Mais au lieu de consolider le régime, les électeurs ont agi comme du sable dans les rouages. D'un côté, on a le parti nazi, le NSDAP, avec ses 230 sièges. Et de l'autre, on l'oublie parfois, on a le parti communiste, le KPD, qui décroche 89 sièges.
Deux partis qui sont pourtant des ennemis jurés.
Exactement. Des ennemis jurés, mais qui partagent le même objectif fondamental, détruire le régime parlementaire. À eux deux, ils occupent plus de la moitié de l'Assemblée. Donc le moteur est soudé, bloqué. Aucune coalition gouvernementale modérée n'est techniquement possible. Pour moi, le Parlement est mort cliniquement ce jour-là.
D'accord, un Parlement bloqué, c'est indéniable. Mais un Parlement bloqué ne signifie pas la mort d'une République. 13 millions de voix pour le parti nazi, c'est vertigineux, je te l'accorde sans problème.
Voilà.
Sauf que ces voix n'ont pas suffi à faire plier les institutions. En août, le président Hindenburg refuse catégoriquement de nommer Hitler chancelier.
Il lui propose juste une vice-chancellerie.
C'est ça, et Hitler la rejette. Et la preuve que ce scrutin n'était pas une condamnation à mort, ce sont les élections suivantes, en novembre. Le système institutionnel tenait bon, et il commençait même à se purger de lui-même. Le parti nazi a reculé, en perdant environ 2 millions d'électeurs. Leur caisse était vide, leurs militants étaient épuisés. Bref, l'impasse mathématique dont tu parles, elle était en train de se résorber.
Mais attends, si le système s'était vraiment purgé en novembre, comment t'expliques qu'Hitler rafle les pleins pouvoirs à peine 60 jours plus tard, en janvier 1933 ? La vérité, c'est que le mal était déjà fait.
Mais pas par les électeurs.
Si, indirectement. Le moteur parlementaire étant grippé par ce fameux vote de juillet, le président Hindenburg a dû utiliser le démarreur d'urgence, l'article 48 de la Constitution. C'est une faille juridique énorme qui permettait au président de légiférer par simple décret. On court-circuite totalement les députés. La démocratie a été empoisonnée par cet outil bien avant l'hiver.
Mais en pointant du doigt à l'article 48, tu détruis ton propre argument là. L'utilisation de cet article, c'est pas le peuple qui la réclame aux urnes, c'est une décision unilatérale des élites pouvoir. Prends le chancelier conservateur von Papen, par exemple.
Oui, son rôle est ambigu.
Très ambigu. Il se sert de cette faille constitutionnelle pour levrer l'interdiction de l'ASA, la milice nazie, remettant sciemment la violence dans les rues. Et surtout, il orchestre le fameux coup de Prusse le 20 juillet.
Ah, mais ce coup de Prusse, il est indissociable du climat de l'élection.
Laisse-nous juste rappeler le mécanisme de ce coup de force. En prenant prétexte des affrontements de rue, tu sais, comme les 18 morts du dimanche sanglant d'Altona, von Papen destitue par décret le gouvernement de Prusse. C'était le bastion social-démocrate le plus solide du pays.
C'est vrai.
Donc, ce n'est pas le résultat électoral qui a brisé la démocratie. C'est un chancelier qui utilise la violence de la rue pour décapiter illégalement ses opposants de gauche juste avant le vote.
Ce que tu refuses de voir, c'est que le 31 juillet, les électeurs ont massivement ratifié ce climat insurrectionnel.
Ratifié ?
Oui, ils ont validé la violence par les urnes. Von Papen n'aurait jamais pu agir avec autant d'arrogance s'il ne savait pas que la majorité du pays rejetait la modération. L'élite n'a fait que naviguer sur la vague de fond créée par le peuple.
Naviguer est, mais non, ils ont cru pouvoir contrôler la tempête. C'est là qu'est la véritable rupture, disons. Pourquoi ces conservateurs traditionnels finissent par offrir le pouvoir à Hitler en janvier 33 par des intrigues de palais ?
C'est un calcul politique.
Un pur calcul arithmétique de cabinet. Von Papen pensait pouvoir encadrer Hitler parce que l'élite conservatrice contrôlait l'armée et la présidence. Leur logique, c'était de se dire « on l'engage et dans 2 mois, on l'aura coincé dans un coin jusqu'à ce qu'il crie ». Il pensait le domestiquer pour utiliser sa base populaire. C'est cette arrogance fatale des salons berlinois qui a tué Weimar, pas la composition du Reichstag.
Bon, je crois que nous resterons sur ce désaccord fondamental, mais on reconnaît tous les deux que ce scrutin du 31 juillet fut un séisme politique majeur, l'expression d'une nation vraiment poussée à bout par la misère économique.
Absolument, le contexte social était dévastateur.
Voilà. Mais là où je vois un système parlementaire mécaniquement paralysé par le choix délibéré des citoyens, ce qui contraint les institutions à s'effondrer...
Moi, j'y vois vraiment la compromission cynique d'une élite vieillissante. Le paradoxe fascinant de cette période, c'est qu'un parti antidémocratique a pu gagner très largement une élection sans pour autant arracher le pouvoir. Les institutions ont en fait tenu le choc initial des urnes.
Ce qui nous laisse avec une réflexion assez troublante sur la résilience démocratique. Il nous reste à méditer si ce sont les engrenages du vote populaire qui, une fois grippés, rendent la chute inévitable, ou si ce sont les dirigeants eux-mêmes qui, croyant maîtriser le chaos, finissent par démanteler leurs propres institutions. Il y a encore beaucoup à explorer sur ce sujet.